Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire, la Pologne avec une élection à Gdansk après l'assassinat du maire précédent.
Ça c'était le 14 janvier et Gdansk aujourd'hui toujours dans l'attente des résultats officiels pour la succession de Pavel Adamowicz. Donc c'est son ex-adjointe Aleksandra Dulkiewicz qui est favorite pour laisser à Gdansk son statut de ville la plus ouverte de Pologne, voire de plateforme de reconquête pour l'opposition en 2019. C'est ce qu'on voit avec vous, Jean-Yves Potel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes historien et politologue, spécialiste de la Pologne, et vous venez de publier un article dans la revue Esprit consacré à ce nouvel autoritarisme en Pologne, la Pologne miroir de l'Europe. Alors justement, avec Gdansk, ville symbolique de l'histoire d'une Pologne qu'on pourrait dire résistante, et puis 2019, année clé avec deux élections présidentielles et législatives à venir. En attendant, c'est Aleksandra Dulkiewicz donc qui se présentait face à deux candidats conservateurs. Pas de résultat, mais quand même un sondage de sortie des urnes. 84% pour Dulkiewicz hier soir. Ce serait donc une victoire un peu sans surprise, comme pour son prédécesseur.
Oui, sans surprise, mais parce qu'effectivement, elle était la seule candidate sérieuse à ce scrutin. Elle avait en face d'elle deux personnes qui sont extrêmement minoritaires. Tous les partis, y compris le PiS, les autres partis n'avaient pas présenté d'autres candidats. Donc, avec 84%, Dulkiewicz fait bien sûr un très beau score. J'ajouterais que le score du principal opposant, qui s'appelle Braum, ce score qui est autour de 12%, est aussi une autre indication, parce qu'il a probablement polarisé tout ce qui peut exister de voix xénophobes ou nationalistes radicales sur la ville de Gdansk. Et c'est à peu près la moitié de ce qu'avaient fait aux dernières élections tous les candidats, y compris liés au PiS, c'est-à-dire à la majorité présidentielle. Donc ça vous montre aussi que la grande majorité de la population de Gdansk s'est retrouvée derrière cette femme qui incarne en fait la suite de ce qu'a été le maire précédent.
Oui, ce Gregor Braun là qui incarnait un peu l'opposition qu'on disait monarchiste, coalition proposée.
C'est un monarchiste, ouais. Mais c'était aussi un nationaliste homophobe, xénophobe, etc.
Oui, avec un slogan qui était Église, école, champ de tir, oui. Et puis monnaie, je crois. Alors justement, vous avez donné cette information que les deux principaux partis, donc PIS, Droit et Justice, et PO, la plateforme civique, n'ont pas présenté de candidat. Qu'est-ce que ça signifie, cette abstention? C'est pour le choix de la continuité, diriez-vous, ou parce qu'ils n'ont pas osé s'opposer à l'héritage de Pavel Adamowicz?
Je pense que c'est lié à les deux raisons. Mais l'héritage de Pavel Adamowicz est énorme, surtout qu'il a été assassiné. Et son assassinat, c'est la preuve, disons, la traduction d'un climat de haine qui a été contre lui et contre d'autres personnes, qui a été mis en œuvre par le régime actuel. C'est-à-dire que la situation à Gdansk n'est pas une situation simplement liée à la particularité de ce maire qui était un homme ouvert, accueillant des migrants, faisant une gestion participative de sa mairie, soutenant les mouvements LGBT, etc. Ce n'est pas simplement ça, c'est aussi un crime qui renvoie à un climat général dans la société qui a été mis en place depuis 3 ans par le parti au pouvoir qui passe son temps à monter les Polonais les uns contre les autres et qui a commencé fondamentalement par nous expliquer que tout ce qui s'est passé depuis 30 ans en Pologne, depuis la chute du régime communiste, tout ce qu'ont fait les gouvernements libéraux ou centre-droit depuis, ça a été une catastrophe. On mis à genoux la Pologne, l'ont détruite. Enfin, les Polonais ne peuvent pas croire à ça. Mais il se trouve que c'est sur cette base-là qu'ils ont réussi à gagner les élections.
Oui,
et depuis, ils ont mis en place toute une politique de mise de destruction de l'état de droit, de mise en place d'un nouvel autoritarisme.
Oui, j'allais ajouter pour ce climat une polémique assez sordide, d'ailleurs à l'encontre de Jerzy Oswiak, qui dirigeait ce fameux événement auquel participait Pavel Adamowicz quand il a été tué. Pour ce qui est de Alexandra Dulkiewicz, en quoi est-ce que ce serait la dauphine idéale? Donc c'est vrai qu'elle travaillait depuis longtemps avec Adamowicz, depuis au moins 10 ans. C'est une ex-conseillère municipale, elle était adjointe économique cette fois. En quoi est-ce qu'elle peut, disons, à la fois incarner cette tolérance politique et puis avoir, disons, l'aura politique pour résister justement à ces assauts?
Ben, ça tient à sa personnalité. Elle est très aimée en Pologne. Elle est très aimée à Gdansk plutôt. Et elle a depuis, au début, elle était simplement un peu dans l'ombre. Mais depuis quelques années, depuis qu'elle elle était adjointe à Adamowicz, elle joue un rôle très important. Elle était très présente. Alors, est-ce qu'elle sera la continuité exacte? Ce n'est pas certain. Par exemple, Adamowicz était un libéral qui était assez conservateur sur toute une série de questions. Elle l'est apparemment moins. Et puis c'est une femme. C'est une nouvelle génération. Mais je crois que les habitants de Gdansk sont très attachés à ce qui s'est passé depuis à leur ville et à la manière dont leur ville a été gérée. Alors il y a eu bien sûr, comme dans toutes les villes, des problèmes, mais je crois que c'est aujourd'hui un peu le visage que voudrait se donner une partie importante de la société polonaise qui refuse le gouvernement du PiS, mais qui est aussi très critique par rapport au bilan de la plateforme civique. Et donc je crois que c'est un peu l'indication non pas forcément d'une alternative, même si elle se présenterait comme une alternative, mais comme une chance ou un espoir pour une partie de la population polonaise qui refuse ce bon changement de Kaczynski.
Et avec déjà une prise de position d'Alexandra Dulkiewicz assez, on pourrait dire, consensuelle ou légaliste concernant le débat sur la pédophilie en ce moment avec le déboulonnage de la statue du prêtre Henryk Jankowski. On y renverra sur le site. Pour ce qui est des soutiens plus larges, elle était soutenue par quatre partis. Il y avait l'EPO, la plateforme civique, le Parti populaire, Novotchena, un parti qui se dit moderne, c'est la traduction, et Wiosna Printemps de Robert Biedron, là, ce jeune maire également. Qu'est-ce que ça indique, cette coalition, pour les futures élections? Il y a réellement un bloc d'opposition qui est en train de se former?
Enfin, il y a deux courants d'opposition qui se forment. Le test, ça va être les premiers tests, ça va être les élections européennes au mois de mai. Et en fait, il y a l'opposition traditionnelle, l'opposition, disons, libérale, qui est, disons, de type démocrate centre-droit, qui a dont l'incarnation international, c'est Donald Tusk, qui est le président du Conseil européen.
Mais qui va revenir.
S'est restructuré, s'est élargi, a constitué une coalition sur le thème « Il faut réagir contre le PiS qui attaque la démocratie ». Donc, on essaie de... Et donc, il y a un regroupement important qui se fait, qui peut faire d'ailleurs un score équivalent, même plus important que celui du PiS. Et que le PiS, d'ailleurs, perdant dans les sondages, un peu s'érodant dans les sondages. Mais il y a un nouveau groupe qui s'est constitué, qui s'appelle Le Printemps, autour de ce maire de Słupsk, qui s'appelle Biedron, Monsieur Biedron. Et Monsieur Biedron, lui, essaye de passer au-dessus des partis traditionnels, un peu à la manière de Macron, qui est sa référence, et pour constituer un parti et une option indépendante entre ces deux, qui seraient plutôt de type centre-gauche. Aujourd'hui, dans les sondages, cette option fait à peu près 15%, 12, 13, 14%. Ça marche assez bien pour lui au niveau du départ, oui, qui vient de commencer. Yeah. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de capter une option qui s'est affirmée dans les élections locales d'octobre dernier, d'élus locaux et d'élus dans les grandes villes, qui, justement, se mettait en dehors de ces grands partis, qui étaient indépendants. Et c'est ça qui essaie de se passer. Donc, il y aurait peut-être deux oppositions OPIS, celle autour de la plateforme civique et celle autour des biais drones.
Oui, et avec un programme très radical, biais drones, on pourrait dire du point de vue du PIS, l'augmentation des salaires minimum, égalité hommes-femmes, abandon du charbon, mariage homosexuel légal, avortement jusqu'à 12 semaines, et j'en passe, on aura l'occasion d'en...
Et décléricalisation
et imposition de l'Église également. Alors, dernière chose, vous faisiez allusion à ces élections d'octobre dernier. En quoi ça pourrait être un modèle? C'est vrai que l'opposition et les indépendants ont emporté la plupart des villes, mais les assemblées régionales restent au PIS, qui reste très fort, hein, 9 régions sur 16 et la majorité absolue dans 7 d'entre elles.
Oui, mais d'abord, ils sont partis d'une région. Deuxièmement, il y a 15 régions. Donc, et d'autre part, je crois que le système électoral, avec les votes, etc., a fait que ça donnait plus une surreprésentation du PIS dans ces assemblées régionales. Mais c'est vrai que le PIS reste solide. Il reste solide dedans. Et en gros, il a un noyau d'un électorat autour de 30% qui ne bouge pas, et qui entre 30 et 35% et qui est très fort. Mais mais aujourd'hui, je crois que on est plutôt dans une phase, disons, de tassement, d'érosion. Et parce qu'il y a toute une série de circonstances qui mettent en cause cette superpuissance du PIS. Et donc on peut croire que, non pas qu'ils vont forcément perdre, mais qu'ils vont être mis en difficulté. On va voir, parce que moi je suis à peu près certain qu'aux européennes, ça sera très serré et qu'ils risquent de pas être les premiers. Après, pour les législatives et les présidentielles qui suivent, ça va dépendre de beaucoup d'éléments, et notamment du retour dans la vie politique polonaise de Donald Tusk, qui est quand même très populaire et qui s'est déjà manifesté en disant qu'il, en laissant entendre qu'il se présenterait au présidentiel. On verra.
Eh bien, c'est noté. On suivra ça, européenne, présidentielle et législative. Merci Jean-Yves Potel pour ce matin, et on renverra bien sûr à la revue Esprit consacrée au nouvel autoritarisme en Pologne. Merci.